c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus. Oh, il n'y a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là.
Les jours. Oh, purée, ce gaz qui marche pas, mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti.
Escargot, laitue, douce faisane d'automne, champignonneux, auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Afrique, bonjour à toutes et à tous. Dans le studio ce matin, nous avons Elsa Gourmand. Bonjour Elsa.
Bonjour Elsa.
Delphine de Radio Temps à Rodez qui est avec nous jusqu'à mercredi. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Et à la technique, derrière son bocal de verre, notre filou préféré, accompagné de sa nouvelle recrue Chloé. Bienvenue donc à tous dans cette matinale radioactive. Et oui, le 21e siècle est un siècle de stress et de terreur. Nous vivons dans des menaces constantes, des dangers potentiels et invisibles contre lesquels nous ne pouvons rien, ou si peu. Elsa Gourmand se fera un plaisir de nous emmener en balade dans une revue de presse explosive consacrée au nucléaire. Dans la chemise à rayures, nous partirons à la rencontre d'une association qui se bat justement contre de nombreuses afflictions du monde moderne. J'ai nommé l'association Canopée. Nous découvrirons avec José Vasquez les antidotes que cette association a mis en place. Un second invité dans la chemise à rayures ce matin, Delphine nous fera un topo sur les nouvelles actions des postiers. Et enfin, nous mettrons les voiles dans la parenthèse littéraire, une chronique plus légère. Sylvie Boulard nous parlera d'une histoire de famille où se mêlent l'art et les rêves. Elle poursuivra son périple littéraire de la semaine dernière avec les deux jeunes auteurs Zad et Didier Jean. Mais avant toute chose, une entrée en musique chaleureuse qui nous permettra, je l'espère, d'affronter les nombreuses révélations d'Elsa Gourmand.
So wa. La mama dara suru la hi kone bina kumasa. Ebe sara la muzola hadununya muzola kula mogelema. Ibe kono ta segena kide molo segena kika no la mo abada. Kata gala mola ibo di la mola kika no to no dun abada. Sa ahi so wa so wa wa so wa. Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mwa korodo Johnny nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni wolo teni bibolo Ikana dikata la mwola Nide muzoma ni bibolo Ikana dikata la mwola Denje mani bibolo Ikana dikata la mwola Obena ni duzo kasiye, obena ni sonjae sa ai. So wa.
Aya de unye la je,
C'est la belle africaine Fatou qui nous chante Sowa, un CD de la semaine que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour la revue de presse. Vous êtes prévenus, ça va secouer.
Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah! Le Canard Enchaîné a consacré ses derniers dossiers au thème donc du nucléaire sous le titre « Nucléaire, c'est par où la sortie ?» pour tout savoir de cette merveilleuse technologie, incolore, inodore et aux saveurs délicieuses. Mmh. À l'origine de ce miracle industriel et scientifique, il y a Hiroshima et ses 100 000 morts. En 1945, tout le monde était content de cette expérience qui avait prouvé donc l'efficacité de la première bombe atomique. On n'avait jamais tué autant de gens d'un seul coup. C'est merveilleux, hein ? Ça n'empêcha pas les États-Unis de renouveler l'expérience à Nagasaki, on ne sait jamais. Hein, si ça n'avait pas marché une deuxième fois, faut ce qu'il faut. Bref, à partir de là, la fabuleuse aventure du nucléaire commence pour ne plus s'arrêter. Deux mois après Hiroshima, De Gaulle crée le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, qui ne rendait compte qu'à De Gaulle, qui lui a assigné comme mission de fabriquer la fameuse force de frappe nucléaire pour mettre la France au rang des grandes nations. Le 13 février 1960, après maintes péripéties que je ne détaille pas, la première bombe atomique française explose à Reggan dans le Sahara algérien. Pas de temps à perdre, ceci dit, il faut désormais passer à la bombe hydrogène, dite bombe H, 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima.
Hein ? Oh.
Ah oui. C'est beau le progrès.
Pas de progrès, ouais.
Alors c'est Chaban Delmas qui s'y colle. Il est ministre des Armées et il avait en 58 mis en route la construction de l'usine militaire de Pierrelatte qui produira de l'uranium hautement enrichi. Et boum, en 68, la première bombe H française explose en plein Pacifique. L'atome pacifique, justement, il arrive bien après la bombe. C'est en 63 qu'EDF prend en exploitation son premier réacteur nucléaire, celui de Chinon 1. Alors, je ne sais pas si c'est le Chinon où on fait du vin aussi. Mais c'est possible.
Hein,
me dit Philippe,
oui. Ouais.
Oui. Ça craint un peu pour le vin, parce que c'est bon le Chinon, sinon. Hein. Mais bref. Mais bon, l'industrie nucléaire, tant que le pétrole était bon marché, elle avait quand même du mal à décoller. Heureusement, il y a le premier choc pétrolier en 73 et en 74 qui change la donne. La vie est bien faite, hein ? Et le 6 mars 74, justement, Pierre Messmer annonce, je cite, « Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts et qui coûtent 1 milliard de francs chacune. Aucun pays au monde, sauf les États-Unis. » ne fait un effort comparable. On est fort en France.
Bravo, bravo.
Oui. Allez. Bien sûr, la technologie nucléaire est totalement maîtrisée. Un accident grave est absolument impossible et les déchets ne posent aucun problème. Donc, aucun besoin de débattre de la question. Hein ? Bah oui, on va pas perdre du temps avec des débats citoyens.
Débats stériles, en
hein
plus.
Non, mais sans intérêt. Il y a quand même eu un seul débat parlementaire qui a lieu un an plus tard, mais sans vote à la clé. Voilà. Allez. Les réacteurs se mettent donc à sortir de terre en cadence accélérée. 1977, Fessenheim. 1978, Bugey. 1981, c'est 7 réacteurs qui sortent de terre, dont Gravelines, Dampierre et le Tricastin. Puis il y en a encore 8 autres en 81. Et puis il y a le 10 mai 81. Mitterrand est élu président de la République.
Est-ce que ça a changé quelque chose ?
Ah, question ! Et justement, dans ces 110 propositions figuraient celles qui consistaient à limiter le programme nucléaire aux seules centrales en construction, mais aussi à consulter les Français par référendum. Mmh. Vous en avez vu la couleur, vous, d'un référendum ?
Hein ? On était
sur le nucléaire. Ah oui, c'est vrai, t'étais pas... Philippe, on t'a rien demandé, hein ?
Non. Ça pas, ou y avait
voilà.
Même...
Résultat des courses, durant les deux septennats de Mitterrand, 34 nouveaux réacteurs voient le jour. Hein ? Voilà. Alors attendez, où j'en suis là ? 34 nouveaux, voilà. Et comme il faut vivre avec son temps, le projet d'extension de l'usine de La Hague, qui traite 800 tonnes de combustible par an, est confirmé, avec en sus la construction d'une usine de déchets nucléaires en provenance de l'étranger. En 1985, mise en service du plus gros surgénérateur du monde, Super Phoenix, qui va fonctionner jusqu'en 1998, mais pendant ce temps-là, en réalité, il va fonctionner que 13 mois. Et puis on le ferme définitivement en 98, ça a coûté un fric fou. Allez hop. 1986, catastrophe de Tchernobyl, c'est pas grave, on continue. Et c'est en 99 que le dernier réacteur, celui de Civaux, est mis en route. 11 mars 2011, catastrophe de Fukushima.
Ça me dit quelque chose.
Ouais. L'Allemagne, l'Italie, la Suisse décident de sortir du nucléaire. Seule la France reste droite dans ses neutrons avec ses propos de Sarko le 5 avril 2011, je cite « Je me battrai pour défendre le nucléaire parce qu'il n'y a pas d'énergie alternative en l'état actuel des choses, sauf à dire aux Français qu'ils vont vraiment se chauffer à la bougie. »
Bravo.
Les dossiers du canard, donc, il faut absolument vous procurer ce journal pour tout savoir de cette industrie de l'avenir. Voilà, ça s'appelle « C'est par où la sortie nucléaire ». De son côté, Politis nous rapporte que l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a élaboré un scénario bas nucléaire pour 2035. Il revoit à la baisse. Étonnant, non ?
Hein ?
Alors effectivement, dans son dernier rapport annuel prospectif, l'agence envisage pour la première fois l'hypothèse d'un franc recul du nucléaire dans le monde. Parce que oui, après Fukushima, la confiance dans le nucléaire a vacillé, les assurances renâclent, les coûts augmentent, les opinions publiques se braquent. Et puis il y a le principe de réalité, hein, comme je l'ai dit, plusieurs pays ont déjà fait marche arrière, Allemagne, Belgique, Italie, Suisse, Mexique. À partir de ces constats, l'agence a développé le scénario suivant pour 2035. Aucun nouveau réacteur n'est construit dans la zone OCDE. Les pays hors OCDE, Chine, Russie, Corée, Inde, réduisent de moitié le nombre de leurs projets. Et la durée de vie supposée des centrales existantes est portée à 45 ans au lieu de 50 ans. Résultat, la part du nucléaire dans la production mondiale de l'électricité devrait tomber de 13 à 7%.
C'est pas non plus folichon, quoi.
Non, mais c'est un début.
Oui, mais en 2035...
Oui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une couille dans le potage de l'Agence internationale de l'énergie, là ? C'est bizarre, ce truc, quand même, non ? Un bon gros testicule dans la soupe.
Elsa, voyons.
Eh ouais, car l'AIE noircit le tableau de cette prévision. Alors, voilà, il dit, voilà, on pourrait faire ça, mais si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? Si ce plan s'applique, eh ben, il faudra un recours accru aux énergies fossiles, dont émissions de CO2, hausse des prix. Ça craindre pour la sécurité énergétique, affronter des difficultés pour satisfaire la consommation dans les pays émergents. Enfin, ça va pas du tout. On peut pas. Bref, ce serait une catastrophe de faire ça, de baisser la part du nucléaire. Oh, je suis triste. Donc finalement, conclut le journaliste de Politis, cette théorie ne sert qu'à valoriser le scénario central de l'agence, qui n'intègre qu'un mini-ajustement à la baisse de ses prévisions antérieures de croissance de la production nucléaire dans le monde. Eh bien, on continue avec le nucléaire. Avec l'EPR, cette fois, qui fait des sacrés dégâts au Parti Socialiste et chez Europe Écologie Les Verts. Ce pataquès autour de l'EPR, pour ne pas dire ce psychodrame, fait le bonheur de Marianne, qui revient sur ce thème à travers un portrait de François Hollande. Il titre « Assiste-t-on à la mue du mou ?» C'est fort, hein ? Assiste-t-on à la mue du mou ? En tout cas, face au piège nucléaire des Verts, ils sont fourbes ces écolos, je vous dis pas, il a su tenir le cap de la fermeté, dit Marianne. Il est fort flambiste tout de même. Et Marianne nous raconte, dans les heures donc, qui ont suivi l'accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts, il y a eu branle-bas de combat chez les hommes du nucléaire. Le PDG d'EDF, d'Areva, tous ces gens-là. Pour défendre la filière, donc, ils ont mis en avant le génie des ingénieurs, le savoir-faire des ouvriers, la balance commerciale et puis une certaine conception de l'indépendance énergétique de la France. Et puis, ils ont fait aussi un peu un chantage aux élus, hein, en parlant de l'emploi. Ah oui, il y a plein d'emplois qui vont disparaître. Bref, si on arrête l'EPR. En lisant le paragraphe consacré au retraitement qui concerne l'usine de La Hague, ils ont repéré la faille. Et mardi soir, la semaine dernière, donc je pense, alors que le texte devait être débattu par le bureau national du PS, le directeur des affaires publiques d'Areva a contacté le député maire de Cherbourg, C'est Bernard Cazeneuve, le député maire de Cherbourg. Et il lui a dit, une reconversion de la filière MOX, c'est la fermeture de la Hague. Donc dans l'urgence, Stéphane Le Foll, l'un des proches collaborateurs de Hollande, a été mis au parfum. Et la décision a été prise, au nom de François Hollande, de supprimer le paragraphe sans en avertir les membres du bureau national et encore moins les Verts. Alors, bon, j'étais pas content. Hein.
Mais est-ce que finalement, François Hollande, il ressemblerait pas un petit peu à Nicolas Sarkozy ?
Je sais pas, ça c'est toi qui le dis, tu prends tes responsabilités.
Oh, oh.
Alors bon, pour savoir comment François Hollande s'est sorti de cet imbroglio, je vous renvoie à l'article de Marianne, mais une question se pose quand même. Hein. Comment, pourquoi Europe Écologie Les Verts ont-ils accepté cet accord plein d'accrocs à leurs convictions ? Ben oui, pourquoi finalement ils se sont couchés, quoi
Hein. Pourquoi ?
Pourquoi ? Et c'est encore Marianne qui nous le dit, qui s'est procuré des documents internes à Europe Écologie Les Verts et qui révèle que le parti est au bord de la faillite. Il fallait... ils n'ont plus de sous. Donc, faut régler le problème. Hein, donc, faut augmenter les recettes. Or, dans un parti, elles proviennent surtout de l'État qui accorde environ 1,70€ pour chaque voix gagnée lors des élections législatives. Mmh. Eh ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fallait ? Eh bien, il fallait absolument faire un accord avec le PS pour avoir le plus de voix possible aux législatives. Voilà. Il leur faut au minimum 1,5 million de voix aux Verts, aux législatives de 2012, ce qui représenterait un score moyen de 6%. Le plus confortable serait d'atteindre 1,8 million de voix, ce qui permettrait d'honorer les échéances bancaires. En plus de ça, en plus de cette somme de 1,70€ par voix obtenue, l'accord avec le PS permet en principe la constitution d'un groupe, ce qui octroie des moyens supplémentaires en secrétariat, voyage, etc. Sans accord, donc, point de salut. Seul le soutien opérationnel du PS peut éviter que la charge des dettes n'étrangle le parti. Voilà, une histoire de gros sous. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà, la vie est cruelle. Alors, une dernière petite nouvelle, c'est dans l'IB, puis vous l'avez peut-être entendu ce matin aussi sur France Inter, Areva prévoirait près de 3000 suppressions de postes, dont 1000 en France. Bon, ils démentent, je crois, par rapport aux suppressions de postes
ouais,
en France.
Oui, tout à l'heure, RFI, ils l'ont dit que...
Alors, c'est le surcoût des réacteurs du fameux EPR qui aurait plombé les finances du groupe, d'où nécessité de tailler tous azimuts pour économiser 500 millions d'euros. Il fout vraiment la merde partout, cet EPR.
Bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, palpant avec amour ses atomes d'hydrogène. Pour se distraire, sa mère lui mit des pétards sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors couvert de sparadrap, en buvant son tilleul, tonton nous déclara: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant lui fit immédiatement élever un monument.
Et sur cette aire de poulailler, vous aurez bien sûr reconnu la Java des bombes atomiques de Boris Vian. Place à la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Place au premier invité de la chemise à rayures, une association peu commune installée dans le Nord Aveyron. Alors découvrons ou redécouvrons l'association Canopée. Voilà ce que vous pourrez lire sur le site internet de l'association. Pour la première fois de son histoire, l'espèce humaine est en train de créer les conditions de sa propre disparition en raison d'un modèle de société fondé sur la consommation. Ainsi, l'association Canopée propose de recentrer l'objet de l'association sur la sobriété énergétique et consumériste. Considérant que la réduction des niveaux de prélèvement des ressources et des rejets de gaz à effet de serre ou de déchets constitue la solution incontournable permettant d'éviter une régulation de la crise écologique par le chaos ou la contrainte. Pour Canopée, la recherche de sobriété ne constitue pas une régression, mais une réflexion sur un nouveau modèle de société où la consommation n'est pas la clé du bonheur. C'est une opportunité pour redéfinir un modèle de vie en phase avec les aspirations à l'épanouissement collectif et individuel du genre humain. L'association Canopée, implantée dans le Nord Aveyron, existe depuis plus de 10 ans. Elle compte une vingtaine d'administrateurs ainsi qu'un contrat d'animateur à temps partiel. Mais Canopée, c'est avant tout une association de bénévoles. Et pas n'importe quel bénévole, puisqu'ils font un très beau travail de sensibilisation, d'information et de formation sur les questions de l'énergie et du changement climatique. José Vasquez, l'un des trois coprésidents de cette association, nous en dit plus.
Canopée, c'est aussi un groupe de réflexion, on peut dire aujourd'hui, un groupe de réflexion sur ce que peut être l'économie locale de l'après-pétrole, et en particulier une économie aussi et une agriculture capable de faire face au réchauffement climatique. Canopée, c'est aussi une association qui dénonce le mythe de la croissance infinie dans un monde fini et aux ressources limitées. Canopée est une association qui croit beaucoup à notre capacité collective de débattre et de construire des solutions locales, en particulier avec les collectivités locales, les communes, les communautés de communes, le département, avec ces collectivités, voir comment on peut élaborer justement des projets qui tiennent la route. Ça, c'est un petit peu la philosophie générale de Canopée. De notre dernière Assemblée Générale, en particulier, on a instauré un certain nombre d'ateliers, et notamment un sur la réflexion sur quelle est notre place dans le débat politique local. Débat politique, non pas au sens de la politique politicienne, mais comment on construit des politiques publiques par rapport à ces questions d'énergie et de changement climatique. Il y avait un autre atelier sur notre action en direction des scolaires, et là aussi, comment on peut intervenir sur le département en direction de la jeunesse. Et puis, l'Assemblée Générale, c'était une occasion aussi de réfléchir sur une thématique qui émerge ici ou là concernant l'habitat précaire au sens large, quoi, hein, et qui nous intéresse parce que c'est peut-être un habitat qui a, même certainement un habitat qui a peu d'empreintes écologiques, qui a un bilan carbone très faible, qui émerge porté par des nouveaux acteurs qui viennent, entre guillemets, recoloniser les territoires un peu déserts. Voilà, donc ça a été l'occasion d'échanger avec un certain nombre de jeunes notamment qui sont dans ces logiques de construction d'habitats précaires.
Est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres associations ?
Alors, on essaye de développer des partenariats avec d'autres associations. C'est pas toujours facile, mais à chaque fois qu'on peut le faire, effectivement, on va essayer de construire des partenariats. Je pense en l'occurrence à des questions comme le travail sur la biodiversité avec certaines collectivités et des partenariats qu'on a envie de construire avec des associations comme Action Environnement ou Biodiva. On est un petit peu moins avancé sur justement la question du travail avec des associations comme Reliés ou sur l'habitat précaire, mais ça fait partie de notre préoccupation, c'est de tisser des passerelles avec d'autres. Hein. L'agriculture, oui, il y a des partenariats avec la PABA. La thématique de l'agriculture, c'est quelque chose qui nous paraît important parce que c'est un socle de l'économie locale, important aussi parce que c'est un secteur d'activité qui va et qui est d'ores et déjà impacté par les questions de réchauffement climatique. Donc la réflexion avec le monde agricole sur comment on aborde ces questions-là, comment on aborde la question de l'indépendance énergétique, comment on aborde la question de l'eau avec toute la problématique de l'irrigation portée par la Chambre d'agriculture, voilà, ce sont des sujets qui nous intéressent.
Et vous proposez des formations, non ?
Alors on propose des formations. Alors deux types de formations. D'une part des stages pratiques, notamment dans le domaine de l'éco-habitat, avec par exemple prochainement le 19 novembre un stage sur l'autoconstruction de poêles de masse. Mais ce sont aussi des stages pratiques, par exemple sur la fabrication de barres de bois, sur les enduits, sur l'isolation, sur l'autoconstruction de capteurs solaires. On espère aussi réaliser des stages, pourquoi pas dans le domaine de du petit éolien avec une autre association qui s'appelle Tripalium. Voilà, donc des stages pratiques qui peuvent permettre à un certain nombre de personnes d'accéder à des techniques écologiques dans l'éco-construction à moindre coût. Ça, c'est une première approche. La deuxième, c'est une approche plus théorique avec, par exemple, des stages sur l'éco-construction, mais au sens large, quoi. Comment on aborde un projet soit de rénovation de bâti existant, soit de construction. Aider donc, en fait, les maîtres d'ouvrage à aborder les économies d'énergie, les économies d'eau, etc. Au moment de la conception du projet. Mais également, en matière de formation, une approche qui nous paraît intéressante, c'est le bilan carbone individuel. On en est un petit peu aux prémices, mais ce qu'on souhaiterait, c'est développer des journées de formation à destination des particuliers pour réfléchir collectivement à notre propre bilan carbone, c'est-à-dire en gros, en fonction de nos habitudes de vie, qu'est-ce qu'on émet comme CO2 chaque année, avec tous les postes concernés, l'alimentation, les transports, le logement, la consommation de produits manufacturés, et réfléchir ensemble sur comment on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, comment on réduit donc de fait notre consommation d'énergie et notre empreinte écologique au sens large. Donc ça, c'est une entrée qui nous motive beaucoup et on va très probablement commencer ça cette année avec, on va essayer de mener deux groupes dans des cyberbases sur le département, c'est-à-dire chacun se met derrière un ordinateur, se connecte à un site qui s'appelle Bilan Carbone Individuel, rentre ses données et ensuite on échange. Sachant que le but, c'est pas de dénoncer ceux qui font pas bien, c'est-à-dire qui ont des fortes émissions de gaz à effet de serre, ni de donner un bonus à ceux qui sont un bilan carbone très bas, mais de réfléchir sur comment on peut agir sur nos émissions, sachant qu'un certain nombre d'entre nous sont performants, par exemple, sur l'alimentation, le sont moins sur les transports, et qu'on peut révéler au travers de ça des pistes d'amélioration.
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez sur le territoire. Quel impact politique, dans le vrai sens du terme, vous pensez avoir ?
Ce qu'on sent, c'est que Canopée commence à avoir une certaine reconnaissance. Hein. Elle est visible sur le département. Elle a une reconnaissance en particulier des collectivités locales, puisque un certain nombre de collectivités font appel à nous dans les réflexions. J'ai cité tout à l'heure le parc naturel régional des Grands Causses. On participe à la réflexion et à la mise en place du plan climat-énergie. On est sollicité par un certain nombre de communes pour travailler sur des dossiers concrets. On a été sollicité par le Conseil général pour une réflexion sur l'agriculture sur le Nord Aveyron. Voilà, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, on a le souci à la fois d'une certaine neutralité et puis d'une liberté de parole qui permet d'exprimer un certain nombre d'avis sur les sujets de l'énergie et du changement climatique, et une certaine légitimité parce que c'est un sujet qu'on commence à connaître quand même passablement, et donc on a entre guillemets un certain degré d'expertise qui est reconnu. On a une certaine écoute de la part des collectivités, et j'en suis très heureux.
Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet de l'association www.canopé12.fr. Donc voilà, je le redis, c'était José Vasquez, l'un des trois coprésidents de l'association. Et n'hésitez vraiment pas à aller sur le site internet, notamment pour les stages d'autoconstruction qu'il propose, c'est très intéressant. Delphine, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment avec la Poste ?
Le mouvement des postiers se poursuit, se durcit même à Millau. Comme on vous l'annonçait hier dans cette émission, nous avons contacté un postier en grève. Au nom de l'intersyndicale de Millau, Éric Aragon a fait le point sur la situation tôt ce matin.
Alors ce matin dans le mouvement, nous avons toujours pareil, la même chose, le camion qui a été bloqué par les usagers, je précise bien, par les usagers et non par les postiers. Donc il y a eu constat d'huissier, suite à ça, le camion est reparti. Ensuite, nous devons entrer en négociation, il paraîtrait, ça c'est encore à confirmer, à 10h30 à la CCI de Millau. Voilà, à ce jour les nouvelles. Alors, programme de la journée, mais tout va dépendre exactement des négociations. À partir de là, on se décidera des mouvements qu'il y aura à faire. Par contre, il faut qu'on regarde sur Millau, c'est une distribution ou une mise à disposition de courrier. Il paraîtrait peut-être à la salle des fêtes de Millau. Bon, mais là, c'est à préciser, on ne sait pas trop. Je donne ce qui est au jour le jour. À l'instant même. Alors, il paraîtrait que, je crois, sur Creissel, il y aurait une mise à disposition, comme ça a été fait hier, mais uniquement le courrier de Creissel. Je peux préciser que hier, donc, il y a eu constat d'huissier fait à la demande de la mairie de Millau et de Creissel sur cette mise à disposition sur la place de la mairie de Creissel. Mise à disposition qui paraîtrait illégale d'après l'huissier.
Et le mouvement s'intensifie puisque des préavis de grève sont déposés pour jeudi à Sévérac et à la Cavalerie et pour vendredi à Sainte-Afrique. On sait également qu'à Sainte-Afrique, un concert de soutien est dans les tuyaux dont les bénéfices seront reversés aux grévistes. Affaire à suivre donc.
Révolution. Révolution. posera entre nos doigts comme un arc-en-ciel.
Et c'est Charlélie Couture avec sa balade « Évolution, révolution ». Vous vous souvenez, la semaine dernière, dans la parenthèse littéraire, il était question de deux jeunes auteurs et illustrateurs qui avaient créé leur propre maison d'édition. Et bien aujourd'hui, Sylvie Boulard poursuit son périple dans l'univers de Zad et Didier Jean avec une histoire touchante.
Deuxième livre aussi, de toujours des éditions de Vive Voix, dont je voulais parler, c'est ça s'appelle Envole-toi. Alors c'est les mêmes auteurs. Alors là encore une fois, je trouve que ils ont toujours des idées assez intéressantes, une façon de traiter les histoires, d'envisager les histoires qui est très particulière. Donc là en fait c'est un petit garçon dont le papa est peintre, dessinateur, et donc à chaque anniversaire le père décide de lui dessiner un tableau, et en fait c'est à ce tableau qu'il dessine, c'est les tableaux qui représentent les rêves du petit garçon. Donc si le petit garçon dit je rêverais de voler, eh bien il lui fait un tableau sur un tapis volant, et puis donc il rentre dans le tableau et il s'envole comme ça. Si le petit garçon dit je voudrais aller visiter tel pays, voilà, le papa fait un tableau qui représente le rêve du petit garçon, donc ce pays qu'il voudrait visiter. Et puis ça évolue comme ça, on montre un peu l'évolution de la relation entre le père et le fils à travers ces tableaux. Et puis il arrive un moment où le petit garçon devient un adolescent. Et au jour de cet anniversaire, quand il a 14-15 ans, finalement, le jour de son anniversaire, le papa lui présente un tableau tout blanc en disant « Maintenant, mon fils, c'est à toi d'écrire toi-même tes rêves, de dessiner tes rêves, de choisir toi-même la façon dont tu vas pouvoir les exprimer. » Donc je trouve que c'est une parabole qui est assez magnifique sur à la fois la transmission entre le père et le fils, alors à la fois la transmission des rêves et puis la transmission aussi de la façon dont on raconte soi-même sa propre histoire, et puis avec une visée artistique, hein, puisque enfin moi j'ai imaginé, je ne sais pas du tout si c'est vrai, que c'était quelque chose qui était peut-être arrivé à Didier Jean, donc l'auteur de cette histoire, et puis à Zad, puisque même sont des dessinateurs, des artistes, des créateurs, et voilà, c'est une façon de passer le flambeau de la création à un enfant et de lui dire maintenant la page elle est blanche et c'est à toi de pouvoir la raconter. Donc voilà, je trouve que c'est une très jolie histoire, et voilà, qui peut encore une fois toucher vraiment les enfants, mais qui peut aussi intéresser les plus grands, les parents. Je pense que ça peut permettre un dialogue intéressant entre les parents et les enfants. Donc ça s'appelle Envole-toi de Didier Jean et Zad, et c'est aux éditions De Vive Voix.
Thank you.
s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi, waouh, waouh, waouh. Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi, waouh, waouh, waouh. Elles sont folles, elles sont folles, elles sont folles de moi. Pourquoi les froides norvégiennes ne rient jamais de mes galons bretaines? Et puis pourquoi les hommes préfèrent les blondes alors que moi je les aime profondes?
Pourquoi les Grecs à l'enlèvement d'Hélène firent la guerre pour l'amour d'une brune? Pourquoi, pourquoi le nez d'une égyptienne rendit César aussi con que la lune?
Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi, waouh, waouh, waouh. Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi, waouh, waouh, waouh. Elles sont folles, elles sont folles, elles sont folles de moi. Atomique. Pourquoi les femmes cybernétiques? Pourquoi, pourquoi sont-elles si magnétiques alors que nous on ne fait que la musique? Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi, waouh, waouh, waouh. Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi, waouh, waouh, waouh. Elles sont folles. Elles sont folles de moi, waouh, waouh, waouh. Elles abusent, elles abusent, elles abusent de moi, waouh, waouh, waouh. Elles sont folles, elles sont folles, elles sont folles de moi.
Elle s'amuse de Whippers Circus. Dans cette matinale, vous avez pu entendre une revue de presse radioactive par Elsa Gourmand. Dans les invités de la chemise à rayures, José Vasquez de l'association Canopée et Éric Aragon pour le mouvement des postiers. Ça, c'était par Delphine. Et, dans la et à la fin, la parenthèse littéraire de Sylvie Boulard. Côté musique, vous avez écouté Soa de la belle africaine Fatou, un CD de la semaine, La Java des bombes atomiques de Boris Vian, Évolution, Révolution de Charlie Couture, et enfin Elle s'amuse de Whippers Circus, également un CD de la semaine à retrouver sur notre site internet. Chers auditeurs, à bientôt pour de nouvelles aventures.